Père céleste, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu veux exaucer cette prière faite d'abord par ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 119. Psaume 119. Dont je lis pour vous les versets 97 à 99, psaume 119, versets 97 à 99. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont ma méditation, littéralement. Je vous rappelle cette parole de l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Colosse, que la parole du Christ habite richement en vous, ou richement parmi vous. Colossiens chapitre 3, au début du verset 16. Et enfin, nous venons au cœur de notre sujet par la lecture de l'introduction de 2 Chroniques, chapitre 34. 2 Chroniques, chapitre 34. Je lis les 2 premiers versets de ce chapitre 34 de 2 Chroniques. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Pauvre gosse, rassurez-vous, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Pauvre gosse, que ce petit Josias, âgé de 8 ans, quelle tuile pour cet enfant. Car depuis plus d'un demi-siècle, le petit royaume de Juda et Jérusalem, sa capitale, stagne dans les ténèbres d'une profonde crise spirituelle, morale, sociale, sans précédent dans son histoire. Nous sommes en 640 avant Jésus-Christ, certains diront en 639, peu importe. Quelle est la toile de fond lorsqu'il monte sur la scène publique? Pauvre gosse, parce que son père, le roi Amon, vient d'être assassiné dans son palais par ses serviteurs après 2 années de règne absolument catastrophique. Ce papa avait 24 ans. C'est la fin du chapitre précédent qui nous l'exprime en quelques mots. Quant à son grand-père, le roi Manassé, il a battu deux records dans l'histoire du royaume de Juda. Tout d'abord, le plus long règne, 55 ans. Mais aussi, hélas, le règne le plus calamiteux de tous. 20 règnes se sont succédés depuis le schisme de 930 à peu près, qui a séparé donc cette terre d'Israël en un royaume du nord, appelé parfois royaume de Samarie, un royaume du sud, avec la tribu de Juda et la petite tribu de Benjamin, et surtout la capitale Jérusalem. 12 mauvais rois, et lui est de loin le plus mauvais, le plus remarquable renégat, écrira le rabbin André Néer dans l'histoire de la royauté de Jérusalem. La chute est d'autant plus vertigineuse que Manassé a lui-même succédé à son père, le roi Ézéchias, l'un des tout meilleurs rois de Juda. Comme quelqu'un l'écrit, c'est l'abîme après la cime, car si souvent les plus grands précipices avoisinent les plus hauts sommets. Penchons-nous quelque peu sur ce parcours de 55 ans du roi Manassé. 2 Chroniques 33, versets 1 à 10, donc dans le chapitre précédent, et le texte parallèle et complémentaire de 2 Rois 21, versets 1 à 9, puisque nous avons une double histoire de ces personnages que nous évoquons ce soir. Dans 2 Chroniques 33, 1 à 10, nous avons une énumération impressionnante des pratiques abominables de Manassé et du peuple qui l'entraîne dans son apostasie, c'est-à-dire dans sa rébellion et son rejet de Dieu. Un paroxysme d'idolâtrie abjecte, étroitement associé à une sexualité débridée et à une cruauté sans mesure autour de Baal et d'Astarté. Le culte de tous les astres, essentiellement importé dans ce cadre depuis l'Assyrie qui domine dans toute la région. Le spiritisme, la divination, la magie, la prostitution sacrée, les enfants sacrifiés à Moloch, divinité ammonite, en passant par le feu. Et Manassé est allé jusqu'à lui-même faire brûler ses propres enfants en offrande aux idoles. Ceci nous est dit à deux reprises, à la fois dans 2 Chroniques 33 et 2 Rois 21. Et puis, la profanation du temple de l'Éternel, envahie jusqu'en son cœur par les autels païens et leurs divinités abominables, au point que les prostituées sacrées, hommes et femmes, habitent dans la maison de Dieu. Enfin, une persécution sanglante, généralisée des fidèles adorateurs de l'Éternel. Une tradition juive prétend qu'il a fait mourir le prophète Ésaïe, le conseiller de son père, le roi Ézéchias, en le sciant vivant en deux dans le tronc d'arbre où il s'était caché pour échapper à ses poursuivants. Et puis cela nous intéresse au plus près, destruction des copies du livre de la loi de l'Éternel, c'est-à-dire les 5 premiers livres de notre Ancien Testament, la Torah pour le peuple juif, dont la possession et la lecture sont certainement interdites. Les sacrificateurs et les lévites, leurs aides fidèles, habituellement chargés d'instruire le peuple, sont persécutés, éliminés ou doivent se cacher. Ils sont contraints au chômage et ne sont donc plus soutenus par les dîmes et les offrandes du peuple. Les prophètes fidèles, suscités par Dieu, sont menacés de mort, jetés dans des cachots, éliminés. En un mot, Manassé pratique en quelque sorte la politique de la terre brûlée dans le domaine spirituel pendant plusieurs décennies pour faire oublier la parole de Dieu parce qu'elle dénonce son péché et le condamne sévèrement. Cela fait penser à une des paroles qui introduit la vie et le futur ministère du prophète et juge Samuel. 1 Samuel 3, verset 1er, nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. C'était la fin du temps des juges, une longue période, plus de 300 ans, qui ressemble et ressemblait terriblement à ce qui se passait du temps de Manassé. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et l'adjectif hébreu qui est utilisé ici peut aussi évoquer le côté précieux de ce qui est rare. Elle était d'autant plus précieuse qu'elle était rare. Manassé méprise, rejette, piétine la parole de Dieu. Et une forte majorité de son peuple le suit sur cette voie funeste. Cela fait penser à la parole du prophète Nathan au roi David suite à son adultère avec Bathsheba. « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» 2 Samuel 12, 9. Dans 2 Chroniques 33, versets 9 et 10, il est écrit « Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. » L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Ils n'y firent pas attention. Et c'est là que, d'une manière toute particulière, Dieu intervient, comme si la coupe de sa colère était en train de déborder face à cette hostilité, cette agressivité, cette haine de Dieu dans la vie de ce roi Manassé, si bien que il est sévèrement châtié par l'Éternel, enchaîné, déporté à Babylone par les Assyriens. Sa captivité est d'ailleurs confirmée par des documents assyriens qui le désignent plusieurs fois par son nom. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui s'emparèrent de Manassé avec des crochets. Une traduction précisera, ils lui plantèrent des crochets dans la mâchoire ou peut-être dans le nez. Ils l'attachèrent avec des entraves de bronze et l'emmenèrent à Babylone, 33:11. Et ces documents profanes nous indiquent qu'il est condamné aux travaux forcés et il travaille à la construction d'un nouveau palais à Ninive. Et alors qu'il est au fond du trou, dans une souffrance terrible, il commence à implorer l'Éternel. Il se met à prier l'Éternel. Il s'humilie devant l'Éternel. Et l'Éternel est touché par la droiture, la sincérité de Manassé dans son humiliation. Et l'Éternel pardonne à Manassé. Il lui accorde non seulement son pardon, mais il lui permet de rentrer à Jérusalem et de retrouver son trône. Quelle histoire extraordinaire. Et là, il nous est dit dans les Écritures, dans le verset 13 de 2 Chroniques 33, qu'il reconnaît que l'Éternel seul est Dieu. Il n'est pas loin de la fin de son règne lorsqu'il rentre à Jérusalem. Et le peu de temps qu'il lui reste encore sur le trône, il va le consacrer à une réforme partielle. Mais les dégâts de son règne, particulièrement iniques, sont absolument irréparables. Et ceci nous est dit à plusieurs reprises dans les Écritures, à la fois dans le deuxième livre des Rois, dans le deuxième livre des Chroniques, mais aussi sous la plume du prophète Jérémie. Le roi Amon le papa de Josias, marche sur les traces de son père. Mais quelles traces ? Il marche sur les traces de son père avant sa repentance, c'est-à-dire qu'il revient immédiatement à l'idolâtrie. Et le texte de 2 Chroniques 33 laisse entendre qu'il se rend extrêmement coupable parce qu'il choisit sciemment, à main levée, comme le disent les Écritures ailleurs, de pécher à l'exemple de son père plutôt que de se repentir comme ce dernier l'a finalement fait. Il ne se laisse pas toucher en profondeur dans son cœur par la juste sévérité et l'insondable miséricorde dont Dieu a fait preuve à l'égard de son père. Il refuse de s'humilier. Amon est un rebelle qui méprise obstinément la parole agissante de Dieu qui s'adresse aussi à lui. Et voilà donc que le petit garçon de 8 ans monte sur le trône. Et le roi Josias, bien au contraire, malgré un héritage ancestral calamiteux, une société en décomposition spirituelle avancée, un énorme handicap au départ, quelle bonne nouvelle ! Il va honorer la parole de Dieu. Il va faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcher dans les voies de David, son ancêtre. Il ne s'en détournera ni à droite ni à gauche, nous dit l'introduction de ce chapitre 34. La bonne nouvelle de ce soir, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas de fatalité. Quels que soient nos propres handicaps personnels au départ, quelle que soit la violence des vents contraires, la taille et la puissance croissante du cyclone destructeur du relativisme, du syncrétisme au sein de la société, et hélas, trop souvent dans l'Église, nous pouvons, nous aussi, honorer la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, en faisant ce qui est droit à ses yeux, et en marchant fidèlement dans les pas, le livre des Actes nous dirait, dans la voie du fils de David, le Seigneur de David, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le parcours de Josias dans ses étapes cruciales va nous montrer ce que cela signifie concrètement. Au début du verset 3, nous retrouvons Josias la huitième année de son règne. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Réfléchissons à ce qui a bien pu se passer dans le cœur et dans la vie de Josias entre l'âge de 8 ans et l'âge de 16 ans, qui correspond à la huitième année de son règne. Pendant quelques années, il est sans pouvoir réel, sans expérience. Le peuple continue à mal se conduire aux yeux de l'Éternel. Mais il a deux souvenirs très forts, très particuliers, indélébiles, qui passent et qui repassent dans le cœur de cet enfant. Le premier souvenir, c'est le changement profond dans la vie de son grand-père Manassé à partir de son retour de Babylone. L'Éternel est un maître miséricordieux, un maître plein de grâce, un maître d'une générosité inouïe pour le pire coupable qui se repent sincèrement. L'Éternel, oui, et le Dieu des pardons. Voilà ce que, à sa manière, le jeune Josias doit se dire et se redire dans son cœur. Quant au second souvenir indélébile, il concerne son père, Amon, la méchanceté de son père, son refus de tenir compte de ce qui est arrivé à son grand-père. Et finalement, son assassinat dans l'enceinte de son palais. Et certainement, l'enfant Josias doit se dire « Le péché est un maître cruel qui paye bien mal ses esclaves. » Ainsi, Josias se souvient, il observe, il écoute, il perçoit, il sent, il enregistre, il côtoie des personnes dont les propos et le comportement lui vont droit au cœur. Et certainement, plusieurs de ces personnes figurent dans la liste qui apparaît dans la suite de ce chapitre 34. Je pense à Chaphan, dont nous allons parler, dont la famille a vraiment été un soutien extraordinaire pendant des décennies, notamment pour le prophète Jérémie. Chaphan, un homme de Dieu sensible, qui va devenir secrétaire d'État, qui est scribe de formation. Mais je pense aussi ici à un prophète, Sophonie, nettement plus âgé que Josias. Peut-être même, nous n'en sommes pas certains, un lointain parent, un lointain cousin, si dans ses ascendants, Ézéchias, dont le nom figure dans les Écritures par rapport à Sophonie, serait le fameux roi Ézéchias. Mais quoi qu'il en soit, Sophonie est certainement né pendant les massacres ordonnés par Manassé, puisque son nom signifie « l'Éternel a caché ». Il a abrité, il a protégé. Nous le reverrons un peu plus tard. Quant à Jérémie, lui, il n'a qu'une année de plus que Josias. Et lui, il deviendra un soutien précieux de Josias dans quelques années. Ces personnes et d'autres que nous ne connaissons pas font partie de ce que la Bible appelle le reste fidèle, qui subsiste contre vents et marées, avec le soutien du Dieu Tout-Puissant, lorsque le peuple dans son ensemble sombre dans une criante infidélité à l'Éternel. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance capitale, primordiale, de la transmission orale de la parole de Dieu, de génération en génération. Ce saint bouche à oreille, facilité par un degré élevé de mémorisation dès la petite enfance. Sa maman, Yedida, qui est mentionnée dans 2 Rois 22.1, a peut-être veillé à cela dans ses jeunes années. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dieu s'adresse à lui dans les épaisses ténèbres de la capitale de son royaume. Parce que il est le Dieu toujours présent, partout présent, de cette présence universelle qui n'a rien à voir avec le panthéisme. Il n'est pas en tout, il n'est pas tout, il est distinct de sa création, il est distinct de ce monde, de ce cosmos dont il est à l'origine. Il est séparé de nous-mêmes, n'est-ce pas ? Mais il est présent. Il est présent ce soir. Nous ne pouvons pas expliquer le comment de sa présence, mais la parole de Dieu nous assure de sa présence. Et ce Dieu toujours et partout présent est donc aussi présent à Jérusalem. Preuve en est le constat du prophète Sophonie pendant le règne de Josias. Il va écrire ce petit livre prophétique de Sophonie, sans doute entre 630 et 620 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire précisément dans cette période qui va nous intéresser. Et il s'adresse à la population de Jérusalem qu'il connaît bien et dénonce la corruption morale des chefs politiques et religieux qui vivent dans le luxe et oppriment les pauvres. Écoutez cela. Malheur à la ville rebelle et souillée, pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte pas la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses ministres au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui n'ont plus rien à ronger au matin. Ses prophètes sont des aventuriers, des hommes portés aux trahisons. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Sophonie 3, versets 1 à 4. Et puis il y a le verset 5. Au milieu d'elle, au milieu de Jérusalem, l'Éternel est juste. Il ne commet pas de fraude. Chaque matin, il rend son jugement sans jamais y manquer. Et une traduction plus libre du texte donnera ceci: cependant, l'Éternel est présent dans sa ville. Il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Et je pense ici au British Museum de Londres que je visitais il y a bien des années, et dans lequel on peut voir une vieille carte de marin tracée en 1525 et représentant le littoral de l'Amérique du Nord. Le cartographe a pris soin de porter des indications fascinantes sur des régions de la carte correspondantes à des endroits encore inexplorés. On peut y lire à un endroit « il y a ici des géants ». Ailleurs, il y a ici des scorpions brûlants. Ou encore, il y a ici des dragons. Lorsque Sir John Franklin, un explorateur britannique du début du XIXe siècle, entra en possession de la carte, il barra ses indications effrayantes et inscrivit sur toute sa largeur ces trois mots « Dieu est ici ». Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira, s'exclame David dans le psaume 139, versets 8 à 10. Et longtemps avant lui, Jacob constate cette présence avec stupéfaction à son réveil après la vision de l'échelle montant vers le ciel. C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Genèse 28, verset 16. Dieu cherche le jeune Josias afin que Josias le recherche dans l'épaisse obscurité spirituelle de Jérusalem. Car c'est toujours Dieu qui prend l'initiative par pure grâce. Le tout jeune roi sera-t-il réceptif au message que l'Éternel lui envoie de diverses manières? Sera-t-il réceptif au travail d'amour et de vérité de Dieu dans son cœur? Ou va-t-il combattre, tuer, éteindre la flamme qu'il a allumée en lui? Mes bien-aimés, ce soir, sommes-nous spirituellement réceptifs? Êtes-vous spirituellement réceptifs? Quelqu'un décrire: l'ordinateur nous rend mille fois plus capables de calculer et d'analyser. Il ne nous apprend pas à méditer. Nous possédons des instruments qui nous permettent de tout voir, des nébuleuses aux neutrons, tout, excepté nous-mêmes. Nous avons étendu sans mesure notre faculté de voir, mais non notre perception intérieure. Pour cela, nous avons le même équipement que les prophètes du 8e siècle avant notre ère. Potentiellement, du moins, car en réalité, nous sommes plus pauvres. Alors que nous étions si occupés à accroître l'aspect du moi qui connaît, qui parle, nous avons laissé s'atrophier d'autres aspects. Nous avons fait de nous de puissantes stations émettrices, mais des postes récepteurs bien médiocres. Et le voilà donc, notre jeune Josias, qui arrive à l'âge de 16 ans. Et là, dans la 8e année de son règne, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Ce qui laisse entendre que ce jeune roi a été spirituellement réceptif. Peut-être a-t-il vécu des combats intérieurs, cela est évident, vu les circonstances qu'il vivait. Mais il a décidé d'entretenir, de nourrir, de faire croître la flamme. Et cela a abouti à un commencement, à une décision, à un choix, à un engagement personnel. Et c'est le début d'une marche à contre-courant des mœurs de son temps. C'est Sophonie qui va le dire. « J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem, dit l'Éternel. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal, le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel tout en jurant par le roi, par Moloch, cette divinité abominable à laquelle on sacrifiait des enfants par le feu. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. » Oui, le jeune roi Josias marche à contre-courant des mœurs de son temps. Le texte nous indique le choix d'un point de repère historique fondamental, d'une référence qui plaît à Dieu, le Dieu de David, son père. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je lui ai consacré deux de mes livres, les deux derniers d'ailleurs. L'homme passionné pour lui, intensément désireux d'intégrité, de droiture de cœur, qui savait s'humilier, reconnaître avec une transparence qui touche nos cœurs. Cela, c'est le chroniqueur qui nous l'apprend. Mais il choisit aussi de marcher sur les traces de son arrière-grand-père, le roi Ézéchias, puisqu'il est dit à son sujet dans 2 Chroniques 31-21, « Dans tout ce qu'il entreprit en faveur du service de la maison de Dieu, de la loi et des commandements, il agit en recherchant son Dieu de tout son cœur. » Et il connut le succès. Rechercher Dieu, ou encore chercher Dieu. L'expression en hébreu figure trois fois dans ce chapitre 34, au verset 3, au verset 21, au verset 26. Mais ce sont aussi les dernières des 29 mentions de ce verbe dans 2 Chroniques. Et le verbe hébreu est traduit de diverses manières parce qu'il est riche de significations. Je vous les livre. Il commence, Josias, à avoir recours à lui, à le consulter, à l'implorer. Il commence à chercher à lui plaire, à rechercher sa volonté. Il commence à s'attacher à lui, à rechercher sa présence, sa face. Il prend l'habitude de regarder à Dieu dans chaque situation. C'est le commencement d'une sorte de cœur à cœur entre Josias et son Dieu. Ah, mes amis, je ne sais combien il peut y avoir de jeunes autour de 16 ans ce soir ici. Mais s'il est une bénédiction que je vous souhaite et qui est à votre portée après tout ce que nous avons déjà dit, c'est bien celle-ci. Soyez de ceux qui commencent à avoir une relation personnel avec Dieu, à le rechercher parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et que c'est lui qui vous recherche en tout premier lieu. À peine plus loin, toujours dans notre texte, il nous est dit dans la seconde partie du verset 3, la 12e année de son règne, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. La 12e année, c'est-à-dire notre ami Josias a 20 ans. Et voyez-vous, tandis que je préparais longuement cette rencontre de ce soir, je repensais à mes 8 ans, à mes 16 ans, à mes 20 ans, et tout ce que ces périodes ont représenté par rapport à Dieu dans ma vie personnelle. Je vous encourage à le faire en rentrant, en réfléchissant, peut-être dans l'obscurité de la nuit, au pied de votre lit. Réfléchissez comme Josias a réfléchi. Et il nous est dit, n'est-ce pas, qu'il commença à purifier. C'est un autre commencement, parce que un commencement avec Dieu entraîne toujours un autre commencement. Résultat visible de son mûrissement progressif dans la présence de l'Éternel, son Dieu. Une impulsion divine sur la voie de l'obéissance et de la pureté. Les premières conséquences concrètes, majeures pour son royaume, de sa recherche de Dieu et de sa volonté. Et ce commencement, c'est celui d'une réforme radicale, une purification, un grand nettoyage avec une cascade de verbes de destruction. J'en ai compté 9 en 3 versets. On renverse, on abat, on brise, on réduit en poussière, on brûle, on met en pièces. C'est un paragraphe ramassé, très lapidaire, plein de bruit, plein d'odeur, de brûlé, de poussière. Mais c'est aussi une rupture claire et nette avec le mal. Un traitement radical de l'idolâtrie hideuse jusqu'à l'extrême nord de l'ex-royaume d'Israël, donc bien au-delà des frontières du royaume de Juda. Et puis, nous arrivons au verset 8. La 18e année de son règne, alors qu'il purifiait le pays et la maison, il envoya Chaphan, fils d'Atsalia, Maazéja, chef de la ville, etc., pour réparer la maison de l'Éternel. Le verset 11 précise qu'il s'agit donc des bâtiments détruits par les rois de Juda. Jusqu'au verset 13... Il est question du financement et de l'organisation pratique des travaux. Mais ensuite, c'est la découverte d'une bombe. Une bombe dans la vie de Josias, dans la vie de son entourage, dans ce palais de Jérusalem. Verset 14, au moment où l'on sortait l'argent qui avait été porté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. On manipule de l'argent et on découvre une bombe. Ou plutôt, un trésor sans pareil au monde, infiniment plus précieux que 1000 objets d'or et d'argent, nous dit le psaume 119 au verset 72. Ce trésor, c'est le livre de la loi de l'Éternel donné par la main de Moïse, littéralement. Ce livre, c'est peut-être les 5 premiers livres de la Bible, ce que nous appelons le Pentateuque, ou la Torah, nous l'avons déjà dit, pour les Juifs. Mais cela, il se pourrait que ce soit simplement le Deutéronome, le dernier de ces 5 livres, très très important. Deutéronome signifiant deuxième loi ou répétition de la loi. C'est là d'ailleurs une erreur de ceux qui ont traduit le texte hébreu et en petite partie araméen de l'Ancien Testament en grec. Ils ont vu quelque part cette expression. Et ils l'ont rendu, en hébreu, ils l'ont rendu par Deutéronome, deuxième loi ou répétition de la loi, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus qu'une répétition de la loi. Le Deutéronome, peut-être sans doute ou en grande partie en tout cas, dans le contexte immédiat, le volume de texte et le contenu des événements qui vont suivre m'inclinent à préférer cette forte probabilité. La seconde, je pense qu'il s'agit du Deutéronome. Il y a un certain nombre d'indices convergents qui vont dans cette direction. D'ailleurs, d'après Deutéronome 31, versets 24 à 26, la presque totalité de ce livre du Deutéronome a été déposée à côté de l'Arche de l'Alliance sur l'ordre de Moïse pour servir de témoin contre les Israélites lorsqu'ils se rebelleront contre l'Éternel. Alors on entend une exclamation d'heureuse surprise jaillir sur les lèvres du grand prêtre, du souverain sacrificateur, qui s'adresse à Chaphan, le scribe et secrétaire d'État. « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel !» Verset 15. Mais le temple n'était-il pas sa demeure par excellence? Normalement connu de tous, et d'où sa parole devait rayonner dans toute l'étendue du royaume, dans chaque maison, dans chaque cœur. Elle avait donc été déplacée, cachée, perdue, égarée, abandonnée, empoussiérée, parce que méprisée. Des idoles, les Baals et les Astartés avaient chassé la parole de Dieu et pris sa place dans les parvis du temple, puis finalement, au cœur même, dans le sanctuaire. Qu'en est-il aujourd'hui de la place de la Bible, écriture inspirée de Dieu, dans cet autre temple qu'est l'Église de Jésus-Christ, dans ces expressions locales que sont nos églises dites évangéliques? 1 Corinthiens 3, versets 16-17. Et qu'en est-il de la place de la Bible dans ma vie personnelle d'enfant de Dieu régénéré, puisque mon corps, c'est-à-dire ma personne, est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Il est intéressant de constater que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, 14, nous invite, nous ordonne de fuir l'idolâtrie. Et le vieillard, apôtre Jean, en concluant sa première épître au chapitre 5, verset 21, dira: mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Or, les idoles modernes chassent la parole de Dieu, prennent la place de la parole de Dieu dans nos églises, en envahissant les cœurs. Vous connaissez le dieu Otomo-Baal, le dieu Hand-Baal, football, on dit ball, mais là ça marche très bien, football, basketball et autres sportball, volleyball, V-O-L-E-R, volleyball, ah mes amis, sexball, frickball, smartphoneball, facebookball, lookball, le culte de l'image, punching ball, vous savez ce que c'est, le punching ball, n'est-ce pas? Ce qui permet aux boxeurs de s'entraîner en tapant dans le ballon accroché, n'est-ce pas? Punching ball, l'idole de la violence qui se défoule de diverses manières. Agresse, cogne, boxe, démolit, humilie, salit l'autre par haine, vengeance, rancune, jalousie, etc. Et mes amis, mon ministère, même encore aujourd'hui, fait de moi un témoin de ce qui se passe dans certaines églises, où ceci se vit littéralement aujourd'hui. Faudrait-il parler du zoobaal, la passion des chats, des chiens? Je n'ai pas parlé du zoo de Baal que je visitais dans mon enfance, mais le zoo Baal. Et j'ai là sous les yeux une information donnée par la radio suisse romande en fin juin 2007. Le dimanche 24 juin 2007 a eu lieu le premier culte pour animaux en Suisse dans l'agglomération lausannoise. 130 à 150 participants avec chiens et chats. Le pasteur de la paroisse était ravi et désireux de renouveler l'expérience avec son chien. Voulons-nous peut-être une définition de l'idolâtrie? Tenir à quelqu'un ou à quelque chose au point d'en être totalement dépendant, Dieu excepté. l'adoration d'un faux Dieu. Versets 18-19, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre, dit Chafan au roi. Et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le verset 27 précise qu'il s'est humilié devant Dieu, qu'il a pleuré devant lui. Car c'est d'abord le cœur du roi qui est violemment déchiré et qui prend le deuil. Josias est profondément bouleversé, consterné, atterré, parce qu'il vient d'écouter, entre autres, pour la première fois certainement, la lecture du chapitre 28 du Deutéronome. Oh, rien de problématique avec les 14 premiers, puisque ce sont les bénédictions que Dieu veut déverser sur l'Israël fidèle. Mais ensuite, versets 15 à 68 contient la liste descriptive des malédictions divines prononcées par Dieu contre Israël lorsque le peuple sera rebelle, infidèle, désobéissant à sa parole. Si cette sombre page vise toutes les générations du peuple d'Israël, il pressent qu'elle concerne donc la sienne. Il est angoissé, il vient de prendre conscience de l'extrême gravité de la situation et de l'imminence du jugement divin. 18 fois dans ce texte de Deutéronome 28, 15 à 68, l'Éternel affirme être l'auteur de ces jugements. Mettez-vous dans la peau de Josias, une épée de Damoclès est donc suspendue au-dessus du peuple infidèle de son petit royaume de Juda et de ce qui subsiste dans l'ex-royaume du Nord. Une foule de questions se bouscule dans son esprit, affligé et troublé. Que va-t-il se passer ? Quand cela va-t-il se passer ? Quoi faire en tant que roi ? Comment éviter le pire ? Ai-je d'ailleurs bien compris le message ? Dans les versets 20 à 28, Josias ordonne aussitôt à 5 de ses principaux administrateurs et conseillers de consulter, exactement de chercher l'Éternel, en sollicitant la prophétesse fidèle Huldah, qui habite à Jérusalem, pas loin de là, n'est-ce pas, pour répondre à ces questions. Démarche rarissime de la part des rois, marquée du noble sceau de l'humilité. La servante de Dieu ne tarde pas à transmettre la double réponse de l'Éternel. Premièrement, une réponse à l'homme. Ce n'est pas d'abord le roi. Nous sommes devant la majesté de l'Éternel à égalité, n'est-ce pas ? Simplement des hommes et des femmes, des enfants, des filles, des garçons, des hommes. Tu diras de la part de l'Éternel à l'homme qui t'a envoyé. Et elle ajoute, les malédictions vont s'accomplir. Et puis, elle a un second message immédiat qu'elle adresse alors au roi, à lui d'une manière personnelle, dans sa fonction royale, avec les questions qui le taraudent intérieurement. Et c'est pour lui dire, ces malédictions vont s'accomplir, mais elles s'accompliront après ta mort. Elles s'accompliront après ta mort parce que toi, tu t'es humilié devant moi. Faisons quelques remarques et une actualisation de ce que nous venons de voir. Josias prend immédiatement la parole de Dieu au sérieux. Quelle réceptivité, quelle sensibilité, quel respect des Écritures! Il ne doute pas un seul instant de la véracité du texte du Deutéronome qu'il vient d'entendre et qui a, tenez-vous bien, environ 780 ans d'âge. Pour lui, nul doute, cet écrit est pleinement inspiré de Dieu. Dans la totalité de ses pages, le Pentateuque, le livre de la loi, la Torah, déclare au moins 680 fois être divinement inspiré. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et Josias croit Dieu sur parole. Il prend Dieu au mot. Et pour nous, c'est intéressant parce que Deutéronome 28, 15 à 68 est l'un des textes prophétiques les plus bouleversants par son accomplissement littéral au fil de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'en l'an 70, lorsque Jérusalem, après un long siège, a été en quelque sorte rayé de la carte, le temple réduit à néant et une quantité incroyable de gens livrés en esclavage. Quelqu'un écrit que ce texte de Deutéronome 28 constitue l'une des preuves les plus surprenantes et indiscutables de l'inspiration divine de la Bible. Josias écoute avec simplicité et droiture de cœur le Dieu qui parle, sans arrière-pensée, sans réserve mentale. Il n'y a pas chez lui de raisonnement tordu, tortueux, pour atténuer le sens du texte, pas de tentative d'affadir, de relativiser la parole lue par toutes sortes d'arguments spécieux, fallacieux, subtils, pour éviter de s'humilier, de plaider coupable, de demander pardon. Quelqu'un écrit « Chez nous, nous avons un pèse-personne dans la salle de bain. » Quand on se pèse, on peut ajouter du poids ou en enlever selon la façon dont on se place dessus. Si on veut avoir du poids en moins, on se penche vers la gauche, on pousse fort sur la partie arrière du pied. Ce simple fait vous évite d'avoir à faire du jogging ou à manger des salades. Si on a besoin d'augmenter son poids de quelques kilos, on se penche en avant et on appuie vers le bas. Nous n'avons pas l'intention de nous en débarrasser. Tout ce dont on a besoin pour avoir la ligne idéale, c'est d'un peu d'équilibre et de l'aptitude innée que nous avons tous de nous tromper nous-mêmes. Que de faux raisonnements, tortueux, sophistiqués dans notre approche des Saintes Écritures aujourd'hui. Quelle floraison d'interprétations douteuses, ambiguës, incohérentes, contradictoires, fantaisistes des textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsque la parole de Dieu nous dérange, heurte notre sensibilité en percutant nos mentalités, nos habitudes, nos pratiques répréhensibles, bref, notre péché, nous nous empressons de trouver ou d'inventer une nouvelle interprétation du texte qui nous perturbe, plutôt que de plaider coupable à la croix et de changer radicalement de pensée et de conduite. C'est là la vraie repentance. Ça se passe dans les pensées, dans la mentalité, dans le raisonnement, dans la volonté, au fond du cœur, dans l'esprit, et ça se traduit par un changement dans sa conduite, jour après jour. Si vous avez un tableau de la tour de Pise dans votre salon, vous ne le suspendez pas de travers pour que la tour soit verticale. Je l'ai visité il y a bien des années. Elle est ce qu'elle est. Et pas vertical, surtout, même si on a essayé de la redresser. En tout cas, c'est ce que faisait la femme de ménage d'un passionné d'art qui, chaque matin, découvrait le tableau mis de travers. Alors il a demandé à cette femme de ménage si c'était là son œuvre quotidienne. Et elle de répondre, eh bien oui, je dois l'accrocher de travers pour qu'elle soit droite. Nous sommes actuellement pleinement engagés sur la même pente glissante, dans le même processus de sophistication dans l'approche du texte biblique que les scribes, docteurs de la loi et autres rabbins qui ont accumulé les interprétations tordues et incompréhensibles des textes de l'Ancienne Alliance. Du seul premier mot de la Bible, Bereshit en hébreu, au commencement, il existe environ, tenez-vous bien, 700 interprétations. Et il n'est point de verset de la Torah, de la loi, qui n'en compte plusieurs centaines. Vous direz, j'invente, mais ce n'est pas moi. C'est le rabbin Josie Eisenberg. Dans l'introduction de son premier volume de « Bible ouverte », j'en ai plusieurs dont je me suis régalé tant de fois. Il est le créateur et l'animateur d'une émission télévisée pour le peuple juif du dimanche matin sur France 2 depuis 1966. Oh, nous pourrions évoquer la liste des 39 travaux défendus le jour du sabbat, dont les dérivés atteignirent le chiffre énorme de 1500 actes interdits ce jour-là. On comprend la dénonciation de la fameuse tradition des ancêtres fustigée par Jésus. Parce que, disons-le, il y a de quoi être dégoûté de lire la Bible. Quand on voit ce que l'on voit parfois aujourd'hui dans nos milieux évangéliques. Oh certes, il y a dans l'Écriture sainte des passages difficiles à comprendre et qui parfois justifient plusieurs interprétations possibles. D'ailleurs, l'apôtre Pierre n'a pas manqué de le faire remarquer concernant les lettres de Paul dans 2 Pierre 3:16. Mais leur nombre et leur complexité semblent curieusement augmenter au fil du temps, au fur et à mesure que notre orgueil et notre chrétienne incrédulité multiplient les méandres de subtils raisonnements pour les affadir, les neutraliser, les adapter au goût du jour parce qu'ils sont durs à avaler. On se prosterne devant le faux Dieu de la contextualisation à outrance. Ce n'est plus pour nous, c'était pour un autre temps. On révère le faux Dieu de la modernisation prétendument indispensable du texte sacré. On exalte le faux Dieu de la flexibilité de la doctrine et de l'éthique, même fondamentale, soi-disant montée sur des ressorts plutôt qu'édifiée sur le solide fondement des apôtres et des prophètes, le roc de Dieu lui-même. On sacrifie au faux Dieu de l'adaptation aux théories, aux postulats, aux valeurs changeantes de nos idéologies modernes. On s'incline devant le faux Dieu de l'harmonisation des Écritures avec les mœurs corrompues de notre temps. On chérit le faux Dieu obèse et à mille têtes de la tolérance. On chante des hymnes au faux Dieu séduisant de la nouveauté, puissamment attractive. Mais bien aimé, en nous prosternant devant tous ces faux dieux, nous attristons profondément et éteignons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui, selon les paroles de Jésus lui-même, a entre autres missions celle de nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Un professeur de théologie avait écouté une prédication donnée par un de ses étudiants. Mon jeune ami, dans votre prédication, il y avait à la fois du bon et du nouveau. L'étudiant rougit de plaisir et se rengorge. Bref moment de silence, le professeur enchaîne. Seulement voilà, le bon n'était pas nouveau et le nouveau n'était pas bon. Enfin, on constate un foisonnement de prétendues traductions libres, privées, personnelles, originales, de versets et passages bibliques qui s'éloignent très sensiblement des textes originaux. Leurs auteurs tordent ainsi le cou à la véritable parole de Dieu pour accréditer leurs funestes hérésies. Hélas, telle maison d'édition qui a pignon sur rue donne le mauvais exemple. La maison de la Bible doit trembler, mais ce n'est pas d'elle que je parle. Une version politiquement correcte du Nouveau Testament vient d'être éditée par les presses de l'Université d'Oxford, de l'autre côté de la Manche, sous le titre « Le Nouveau Testament et les psaumes, une version de bonne compréhension ». Je vous fais grâce de l'anglais. Les références à Dieu le Père sont éliminées, tout comme toute allusion au rôle des Juifs dans la crucifixion. En revanche, l'accent est mis sur le caractère humain du Fils de l'homme. Il est également indiqué que les enfants ne doivent plus obéir à leurs parents, mais tenir compte de leurs avis. Les ténèbres ne sont plus associées au diable en raison de leur connotation raciste. Le Notre Père commence par Notre Père, Mère, qui est aux cieux. Les références à la droite de Dieu ont été supprimées pour ne pas pénaliser les gauchers. Le mot esclave est remplacé par était en esclavage. L'expression « Seigneur » pour Dieu a été également gommée, car se référant à une époque passée, j'ai le document qui date du 15 avril 1996. Une église réinventée émerge peu à peu qui n'a rien à voir avec cette invention géniale qui est l'original de Dieu, qui est l'original de Dieu. Et celui qui fut mon professeur de théologie pratique dans les années 60, Maurice Ray, qui est auprès du Seigneur depuis quelques années, écrit ceci: se réclamer d'une évolution de la société pour déclarer, voire décréter qu'il faut aménager la vérité scripturaire, corriger Paul et moderniser l'Église, c'est annoncer un autre évangile. C'est travailler à l'édification d'une maison de Dieu corrigée par des mains humaines. Cette Église émergente est semblable aux icebergs, sa partie émergée fond peu à peu jusqu'à ce que l'iceberg bascule, se retourne, tout en continuant à être poussé vers sa disparition inéluctable. Toutefois, écrit l'apôtre Paul, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 3. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours, de calculs, de subtilités, de complications. Ecclésiaste 7, 29. Et dans un excellent commentaire sur le prophète Amos, son auteur écrit: nous avons oublié que notre Dieu peut se changer en ennemi. Ésaïe 63, 10. Nous avons tant parlé du risque de tomber entre les mains de Satan que nous avons perdu de vue la dangereuse éventualité de tomber entre les mains de Dieu, éventualité que nous évacuons, ignorons et oublions à nos risques et périls. N'est-ce pas le Nouveau Testament qui nous dit dans Hébreux 10, 31 qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant? Le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est d'une richesse extraordinaire en miséricorde. Le Dieu des pardons, nous dit Néhémie, est aussi celui qui rugit. Il est aussi celui qui se met en colère, y compris dans la Nouvelle Alliance, parce que nous avons le même Dieu, à la fois pour l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas deux dieux différents. Il y a un message continu au travers des Écritures, mais nous avons fait le tri, n'est-ce pas, très souvent dans nos vies. Josias a le désir d'honorer ou de glorifier Dieu et la parole de Dieu. Le terme hébreu évoque l'idée de gloire, kabod, c'est-à-dire de poids. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire pèse le juste poids, la juste valeur de tes parents en tant que représentant de Dieu pour toi. Josias a conscience que le poids de Dieu, c'est-à-dire sa gloire, est absolument incalculable, insondable, insupportable, inimaginable et digne d'adoration. Sa parole a donc un poids, une valeur, une richesse, une importance, une autorité, une fiabilité immensément élevée. Elle ne peut que susciter chez lui un profond respect, une écoute attentive et un intense désir de confiance obéissante. Il me reste simplement, en conclusion, à vous lire 2 Rois 23-25. Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Il est le seul de tous les bons rois dont il soit dit qu'il est allé vraiment au bout de ce retour à l'Éternel. Et c'est là qu'on revient au livre du Deutéronome, Deutéronome 6-5, le schéma Israël, la confession de foi des Juifs orthodoxes récitée chaque jour, matin et soir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je pense ici, dans cette conclusion, à l'un des trois fils de Josias qui est monté sur le trône. je vais parler de Joachim. Un roi inique et cruel, qui un jour se fit lire le texte des paroles de l'Éternel prononcées par le prophète Jérémie pendant ses 23 premières années de ministère prophétique, à partir de 627 avant Jésus-Christ. À mesure que Yehudi lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Ainsi, le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent pas effrayés, ne déchirèrent pas leurs vêtements. Et il est dit que d'autres personnes de l'entourage du roi lui supplièrent de ne pas faire cela. Il le fit quand même. Et le roi ordonna de saisir le secrétaire Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. Et voyez-vous, ces 23 chapitres sont dans nos Bibles. Dieu ne les a pas retirés pour faire plaisir à sa majesté Joachim. Il n'a pas cédé à ses caprices. Mieux encore, il a largement complété le message inspiré confié à la prédication de son fidèle serviteur pour que nous ayons non pas 23 mais 52 chapitres dans le livre de Jérémie, dans nos Bibles. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. Jérémie prit un autre rouleau. Le secrétaire Baruch qui écrivit sous sa dictée toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda, beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées, Jérémie 36-33. Faut-il, et je suis tellement heureux de le dire ce soir, faut-il en profiter pour annoncer 2 très heureuses nouvelles, 2 faire part de naissance? Peut-être furent-ils affichés à la porte du palais royal. Car dans ces jours richement bénis du réveil spirituel de Josias, 2 bébés, 2 tout petits bébés, nés peut-être même à quelques mois d'intervalle, peut-être même en 622, au moment du réveil, 2 petits bébés braillés de tout leur cœur dans leurs berceaux respectifs. L'un s'appelait Daniel. Et l'autre s'appelait Ézéchiel. Le Dieu fidèle règne, le Dieu fidèle accomplit ses desseins. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Dieu lui-même, mes bien-aimés, nous met devant un choix décisif d'importance capitale pour toute notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Manassé ou Josias? Joachim ou Josias? Quelle place la parole vivante du Dieu vivant occupe-t-elle réellement dans notre vie de chaque jour? Et en voyant la repentance de Manassé, je ne peux m'empêcher de vous laisser ce verset, Jacques 4, versets 6 à 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, comme il l'a élevé Josias, son fidèle serviteur, attaché à sa parole et qui n'a pas manqué par la suite de lire cette parole et de la lire tous les jours. Ça, c'est un autre message, mais je ne peux pas vous le donner. Seigneur, quelle bénédiction que d'avoir ta parole. Et merci de ne pas nous avoir donné uniquement le Nouveau Testament. Merci pour ces pages de l'Ancien Testament qui nous permettent d'avoir du concret dans ce domaine précis de l'approche de ta parole. Merci pour Josias, merci pour Ézéchias, merci pour ceux qui t'ont été fidèles, merci pour tout ce que tu nous apprends par eux. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être ce soir encore réceptif à ta parole, tellement réceptif que nous allons changer de direction et que nous allons donner à ta personne et à ta parole la place royale, la place d'honneur qui te revient. Oh, qu'il en soit ainsi. Merci par avance, Seigneur, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen.